l'office of the President, donc toute une armada de gens. Et dans cette IOP, il y a les cordons de sécurité, évidemment, les services secrets, l'armada d'officiels, de spécialistes et d'invités. Donc, Colin Murphy, au début de son ouvrage, compare les deux, le Dioclétien et un président américain qui descend de son avion. Alors, c'est facile de répliquer, il est assez facile de répliquer que maintenant, tous les chefs d'État, même l'autre, sont toujours ainsi protégés, escortés, entourés. Mais il reste quand même un point particulier et qui ne tient pas du fantasme, qui repose sur une réalité politique, économique, militaire, diplomatique, c'est que l'homme qui descend d'un avion n'est pas un président, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Et ce détail important change tout. Alors chez les intellectuels, les chercheurs, les hommes politiques américains, cette recherche du parallélisme peut même aller très loin. Par exemple, les tenants de l'homologie historique n'en restent pas à la comparaison Pax America, Americana, Pax Romana, qu'ils jugent purement littéraire, ils établissent d'impressionnantes confrontations de dates. Alors j'en donne un exemple, -215, alors là nous sommes sous la République romaine, avant Jésus-Christ, donc de -215 à -205, c'est l'intervention romaine en Macédoine, et c'est la première pénétration romaine en Grèce. Pour l'histoire américaine, ça correspond à la guerre de 14-18, entrée en guerre des États-Unis, première intervention en Europe. On continue à dérouler la chronologie, -210, grave crise économique à Rome. Ça correspond à la période 29-30, la crise dite de 29. Continuons, -200, -196, c'est la guerre de Macédoine et l'occupation romaine de la Grèce. 1939-1940, l'entrée en guerre des USA dans la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation, entre guillemets, de l'Europe. Enfin, Pascal Quignard a écrit un roman qui s'appelle « L'occupation américaine ». De -181, -195, -181, -178, -154, -133, une série de guerres effectivement très dures que doit mener Rome, notamment en Espagne, en Lusitanie, en Celtibérie, et ça correspondrait pour les comparateurs à la période 1954-1975, guerre du Vietnam. Donc en somme, quand on les suit, on a une sorte de parallélisme de l'histoire des États-Unis de -215, -133 pour Rome, j'arrête là, hein, ça correspond en gros à 1914-1975 pour les États-Unis. Alors sans aller jusqu'à ce que je considère comme un excès, il est quand même intéressant, c'est ce que je vais essayer de faire, de voir quel a été dans ce type de comparaison le rôle qu'ont joué les fondateurs, c'est-à-dire Washington et Jefferson. Et puis de regarder ensuite la permanence dans la mentalité américaine de cette comparaison et de trouver encore, sans aller trop dans les détails parce que le temps manquerait, quelques traits de ce genre dans l'actuelle société américaine. Alors d'abord un mot de la fondation. Dans les années 1780, nous sommes au moment de la fondation des États-Unis, dans les années 1780, le modèle qui a été choisi par les fondateurs de la République américaine n'a pas été un modèle saxon, ni encore moins évidemment un modèle anglais, ça a été un modèle romain. Il s'agissait en somme pour eux de créer une sorte de mémoire fictive qui touchait au langage, aux institutions, aux arts, à l'architecture et qui s'appuyait sur un exemple antique. L'exemple antique, c'était celui de la création de la République romaine en 509 et lorsque Brutus met fin à la royauté romaine. Et eux se plaçaient dans le même contexte puisqu'ils étaient comme Brutus en lutte contre une monarchie, la monarchie anglaise. Donc ils ont développé ce thème de comparaison. Et ils ont créé, du coup, en parfait accord avec les idées du temps d'ailleurs, hein, parce qu'on est au XVIIIe siècle, une sorte de mythe fondateur d'emblée, le mythe de la liberté. Et ce mythe de la liberté est évidemment resté fondamental, on en voit encore la trace dans les débats actuels, dans les mentalités américaines. Alors, si on veut entrer dans les détails, regardons un mot d'abord de George Washington. Il a été président des États-Unis de 1789 à 1797, et il est mort en 1799. Jean Boisselson, après avoir mené, avec l'aide des Français, notamment de Rochambeau, on le voit ici en tenue militaire sur une statue, après avoir mené donc avec, en compagnie des Français et notamment avec l'aide de Rochambeau, une campagne, une guerre victorieuse contre les Anglais, renonce soudainement au pouvoir en décembre 1783. Il renonce à son titre de général et il se retire sur ses terres, qu'on ira visiter ailleurs, de Mount Vernon, en prenant le rôle et la posture de Cincinnatus. Il retourne à sa charrue comme Cincinnatus. Il n'en sortira que 7 ans plus tard, alors quand il retourne donc dans sa propriété, il redevient civil, il se retire. Il ne sortira de cet isolement volontaire dans lequel il est en somme drapé que 7 ans plus tard pour devenir le premier président des États-Unis, après avoir expliqué et en insistant qu'il ne pouvait évidemment en tant que citoyen américain préférer sa retraite et sa tranquillité personnelle aux intérêts de la patrie. La référence est si forte que lorsqu'il s'agira de renouveler le statut de Washington pour le Capitole, le sculpteur Horacio Grimaud le représentera dans une curieuse tenue. Vous voyez, c'est une tenue qui est mixte. En haut, c'est Washington et en bas, c'est Cincinnatus, avec une sorte de toge qui dépasse sous le vêtement d'époque. Alors, cette statue, j'en ai un mot, c'est dans Colin Murphy que j'ai trouvé ça. Elle était trop lourde, donc elle a été déplacée pour. Elle était en hauteur au Capitole, elle a été déplacée de peur qu'elle traverse les plafonds. Et elle a été placée sur le bâtiment qui s'appelle le Smithsonian, qui est sur le Mall à Washington. Mais Murphy Cullen ajoute ce petit commentaire. Il trouve qu'elle ressemble, d'abord que les gens qui la voient ne pensent pas, certainement pas à Cincinnatus, et puis il trouve qu'en plus, elle ressemble à. On dirait que c'est un homme qui se trouve au sauna et qui cherche sa serviette. Alors il y a effectivement quelque chose comme ça. Autre fondateur, c'est Thomas Jefferson. Il a été le troisième président des États-Unis de 1801 à 1809. C'est un homme qui est tout à fait respectueux de la tradition antique, qui a une très grande culture, qui a été un grand défenseur du latin. Citons cette phrase de Jefferson à cette époque. On nous dit que l'enseignement du latin tombe en désuétude en Europe. Ce serait une grave erreur de jugement que de suivre en la matière cet exemple. Bon, après, suit une explication, une défense du latin, c'est dans les notes qu'il a publiées, ou qui ont été reprises récemment. Et donc, Jefferson fait l'apologie du latin, il place les ouvrages grecs et latins, voici Jefferson, dans son projet de bibliothèque idéale pour un gentleman de Virginie, et son rôle va être très important parce qu'il défend le principe d'une architecture néoclassique inspirée de Rome et des constructions de Palladio, dont il est un grand admirateur. Il a pour ami beaucoup de Français, puisqu'il a vécu en France, il parle très bien le français, et notamment parmi ses amis, il y a l'architecte français qui s'appelle Charles-Louis Clérisseau, qui est d'origine limoise, qui a reproduit aussi beaucoup de monuments antiques. Et avec lui, Jefferson, qui a fait beaucoup de choses diverses, va tracer les plans d'un certain nombre de monuments. Par exemple, il tracera les plans du Parlement de Richmond, Richmond c'est la capitale de la Virginie, et la façade du Parlement de Richmond est directement inspirée de la maison carrée de Nîmes qui figurait dans les esquisses de Clérisseau et que Jefferson était allé voir. Alors posez une question, il y a une différence. Quelle est la différence avec la maison carrée de Nîmes dans les colonnes? Ah, comment? Pas carré. Non, les colonnes de Jefferson ici sont ioniques, alors que la maison carrée a des colonnes doriques. Mais il s'agit évidemment toujours de reproduire l'Antiquité en la rendant, en sa rendant personnelle. De même, Jefferson a dessiné les plans de sa maison de Monticello, qui se trouve près de Charlottesville, et même en 1817, il a dessiné les plans de la rotonde de l'université de Virginie, vous voyez, qui est directement calquée sur la rotonde du Panthéon. Et l'université de Virginie évoque évidemment très nettement, alors là les colonnes sont corinthiennes, avec évidemment des nuances, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, évoque évidemment le Panthéon d'Agrippa à Rome. Alors, Washington, Jefferson, un autre symbole également qui est créé à cette époque est important, c'est le sceau des États-Unis. Vous avez pu le voir dans Le Monde, l'autre jour, il y avait une photo d'Obama en train de faire un discours, vous voyez très bien le sceau sur la photo. Il y a deux sceaux, il y a le sceau des États-Unis et le sceau du président, mais c'est pratiquement le même. Ce sceau a été réalisé en 1782, après une discussion, des réunions, etc. Et il a été adopté par le Congrès en 1789. Alors l'inverse, là, ce qu'on voit, et c'est ça qu'on voit le plus souvent, il est tout à fait caractéristique. Je pense plutôt la chose supérieure de tout. Voilà, ici, alors, on a donc un aigle, vous voyez ici, un aigle blanc, bigarre, je crois. Et cet aigle tient dans sa serre gauche un rameau d'olivier, dans sa serre droite un faisceau. Comme il y a une force symbole, c'est autant des 13 colonies, il y a donc 13 branches d'olivier, il y a 13 faisceaux, et il y aura au-dessus 13 étoiles symbolisant les États américains de ce temps-là. Bien entendu, l'aigle symbolise la puissance, le rameau la paix, les faisceaux la défense, et en dessous donc, des 13 étoiles, l'aigle tient dans son bec une devise « et pluribus unum », à partir de plusieurs, un seul, qui est la devise, évidemment, fédéraliste. Autour, il y a les 50 étoiles, puisque ça a été ajouté après au fur et à mesure, puisque maintenant les États-Unis comportent non plus 13, mais 50 États. Alors, le revers du sceau est évidemment beaucoup moins utilisé. Il représente une pyramide tronquée et bon symbole à la fois maçonnique et également antique, et avec deux devises en latin également, annuit coeptis. Annuit coeptis, c'est-à-dire il favorise nos projets, ce que nous entreprenons. Et novus ordo seclorum, un nouvel ordre du monde, des siècles, qui marque effectivement aussi une marche en avant. Sous, toujours au revers, dessous figure la date 1776 en chiffres romains, 1776 étant l'année de la dépendance. Alors, cette présence du monde antique se retrouve toujours, nous sommes toujours au XVIIIe siècle, au moment de la création des États-Unis, et se retrouve aussi dans la querelle qui va survenir à partir de 1787 entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Les fédéralistes, donc qui veulent cette constitution fédérale qui finalement a été adoptée, les antifédéralistes, se livre une guerre de pamphlets, de textes divers à travers des publications, des journaux qui sont déjà très présents aux États-Unis, et ils se fédèrent, si on peut dire, autour d'un thème. Les antifédéralistes signent Brutus et les fédéralistes signent Publicola. Et là, on voit l'excellente connaissance de l'histoire romaine qu'avaient les Américains de cette époque, puisque finalement, on peut se dire que le choix des fédéralistes, c'est-à-dire le choix de Publius Valerius Publicola, était bien meilleur que celui de Brutus. Brutus, c'est un fondateur de la République, évidemment, dans la mesure où il est tout de suite à son origine et qu'il met fin au règne des Tarquins. Mais ont expliqué les fédéralistes, Publius Valerius Publicola, dont on connaît évidemment beaucoup de choses par Plutarque, par Plutarque, par Tite Live et d'autres, Publius Valerius Publicola est l'auteur d'une loi fondamentale du droit romain, l'Alex Valeria, il s'appelait Valerius, hein, l'Alex Valeria de Provocatione. Cette loi, la Provocatio, donne le droit de provocation, c'est-à-dire d'appel. Elle donne à tout citoyen romain le droit de faire appel d'une décision, décision d'un juge, décision d'un consul, même auprès du peuple romain. Et c'est-à-dire qu'on ne peut plus être victime d'un arbitraire. Et par exemple, pour prendre un exemple très célèbre, saint Paul, par exemple, quand il a été arrêté, a demandé, a fait appel, puisqu'il était citoyen romain, du droit de provocation, et il est allé du coup à l'empereur. Il en a fait appel à l'empereur. Donc, les fédéralistes ont expliqué, par conséquent, l'ouvrage de Publicola a montré que c'était lui le véritable fondateur de la République, puisqu'il ne fondait pas seulement l'État, mais il fondait ce principe sacré que les républicains américains ont toujours défendu, celui de la liberté du citoyen. Alors, il s'agit là, à mon avis, de signes très forts, et de signes qui seront durables, on va le voir. Et alors évidemment, ils sont tout à fait caractéristiques de l'époque des Lumières. Ils sont évidemment très inspirés des penseurs français. Mais quand même, il faut retenir que le fait que 13 petites colonies dans un pays qui va se développer, mais on ne le sait pas encore exactement, se dotent d'un capitole, je vais y revenir dans un instant, et s'attribuent des symboles comme l'aigle ou les faisceaux, qui vont être à la même époque ou très peu de temps après ceux de l'Empire français que va prendre Napoléon par exemple, ça montre quand même au départ une volonté de puissance, une volonté d'extension qui me paraît tout à fait caractéristique. Alors regardons ce capitole que vous voyez là, qui donc domine le site de Washington et qui a été tout de suite dans l'organisation de la République américaine, le monument dont la construction était évidemment emblématique. Sur un plan, vous le savez, pour Washington, qui a été initialement dessiné par un architecte français, l'enfant, mais l'enfant a eu tout de suite des problèmes. Avec Washington, essentiellement, il a été pratiquement limogé. Ses plans sont restés, ils n'ont été utilisés que plus tard. Mais ce n'est pas vraiment lui qui a construit Washington, mais la ville a été construite à partir de ses plans. Et l'enfant avait donc imaginé que sur une colline qui dominait Washington, on construirait ce monument qui ne pouvait s'appeler qu'un Capitole, puisque le Capitole est le monument romain par excellence, celui qui dans toute ville où les Romains s'installent, c'est la première chose à la limite qu'ils construisaient, marque la présence romaine. Donc ce Capitole a vu sa première pierre posée en 1793 par Washington. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une affaire extraordinaire, parce que la construction du Capitole que vous voyez là, ça a été fait au mois de décembre, je crois, comme vous voyez là, a commencé donc en 1793, date de la première pierre, et s'est terminé en 1950. Il a fallu 160 ans pour le construire. D'abord, il y a une première construction et puis une destruction par les Anglais en 1814, car les Américains des 13 colonies se sont attaqués à l'Angleterre pour conquérir le Canada d'ailleurs, ce qui prouve justement un désir d'extension, et profitant des guerres napoléoniennes où les Anglais étaient empêtrés, mais les Anglais ont pris Washington et ont brûlé une grande partie de la ville. Il a donc été repris. Il a été achevé en 1857 et puis il a été complété en 1950. Donc on peut dire l'extension de la façade, on peut dire que donc il a mis 160 ans à peu près, sa construction a duré 160 ans. C'est presque autant qu'une cathédrale, un peu moins quand même. Et alors là vous êtes sur la façade est, et qui est le côté vers lequel Washington et l'enfant voulaient tourner le Capitole, et la ville ne s'est pas développée de ce côté-là, elle s'est développée vers l'ouest. Donc le Capitole se trouve pratiquement à l'envers par rapport au développement de la ville. Le dôme, là c'est pris le soir, c'est un peu flou, je mérite ce qu'on s'y intéresse à l'instant, il est de 1863, il pèse 4000 tonnes, et sa particularité c'est qu'il est en fonte. Il a été construit en fonte peinte, la fonte est peinte, en 1863. Et bien entendu, comme il y a un désir permanent de grandeur américaine, eh bien il a été évidemment calqué sur le dôme de Saint-Pierre de Rome. Il y a encore référence de type romain. Alors donc les fondateurs, les premières années des États-Unis, sommes créés sous le symbole de Rome et d'une manière très assistante. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'il y a eu effectivement une permanence dans ce choix initial des fondateurs qui a exercé sur les mentalités américaines une influence durable. Et les sensibles, on va le voir, jusqu'à nos jours. Alors regardons d'abord l'influence durable exercée en architecture. Donc la permanence du modèle romain, elle est évidemment d'abord visible dans le domaine de l'architecture, sur lequel, je le disais tout à l'heure, s'est exercée tout particulièrement l'influence de Jefferson. Jefferson, qui était absolument fidèle à la tradition classique, a continuellement défendu le principe d'une architecture monumentale à la romaine, ou parfois à la grecque, évidemment inspirée des constructions néoclassiques européennes, mais qu'il trouvait particulièrement propre à exprimer les valeurs républicaines de la Révolution américaine. Parce qu'il faisait toujours ce rapport entre la création de la nation américaine et la République, maintenant on va parler d'Empire romaine. Alors l'architecture, effectivement, est, me semble-t-il, même c'est sûr, l'expression d'une volonté politique dans l'espace. Elle est une sorte de rhétorique du pouvoir. Donc se référer à Rome, c'était se rattacher à l'ancêtre le plus puissant et peut-être déjà manifester le désir de l'égaler, voire de le dépasser. Il est caractéristique que, par exemple, le dôme de l'université que je vous montrais tout à l'heure, de Virginie, qui a été conçu par Jefferson, a été conçu plus grand que le Panthéon. On fait comme le Panthéon, mais on fait plus grand. Il y a toujours ce désir de grandeur. Alors c'est pourquoi, certainement, les États-Unis ont toujours gardé, ont gardé, jusqu'aux années 1950 à peu près, le style néoclassique, dont Jefferson est plus ou moins le créateur, et qui est appelé style Beaux-Arts. Donc, ils l'ont gardé dans pratiquement tous leurs monuments publics. On peut dire, c'est un peu excessif, mais on peut dire, et que surtout de 1900 à 1915, ils ont unifié leur territoire en le romanisant. Et on a pu dire aussi que dans cette période, 1900-1915, ils ont utilisé autant de marbre que l'Empire romain dans toute la durée de son existence. Un premier exemple, c'est les gares. Comme les gares devaient accueillir des foules importantes, elles ont été conçues à la fois pour accueillir ces foules et pour servir de grands portails d'entrée, un peu genre Arc de Triomphe, d'entrée sur les nouvelles villes qu'on construisait aux États-Unis. La gare de Washington, j'y reviendrai, Union Station, est construite en 1908. La gare de New York, le Grand Central Terminal, en 1913. La gare de Chicago en 1925. Il ne s'agit donc plus du style du XVIIIe siècle, hein, c'était vraiment une volonté de construction. Elles ont été construites toutes les trois sur le modèle des grands thermes romains, des thermes de Dioclétien. Et les architectes américains ont eu connaissance de ces thermes et de leur immensité par une lithographie d'Edmond Paulin, qui est un Français, qui est mort en 1915, qui avait été publié en 1890 chez Firmin Didot, et qui a beaucoup circulé aux États-Unis et qui représentait les thermes de Dioclétien. Et ils ont même fait, par exemple pour la gare de Washington, les architectes américains se sont déplacés et ils ont fait évoluer des foules dans les thermes de Caracalla. Alors, inspirés du Fugitorium, c'est-à-dire de la grande salle centrale, par exemple, le Main Hall de la gare de Washington a été donc, je le disais tout à l'heure, achevé en 1908 et puis il a été restauré là en 1980. Il a une hauteur de 29 mètres. Il reproduit le dôme des monuments romains. Ceux de Dioclétien ont disparu, mais on en connaît d'autres, beaucoup de traces. Il reproduit les verrières, qui sont aussi des verrières que le Palladio déjà plaçait dans les églises, mais qui sont des verrières qu'on connaît des termes romains. Et pour bien marquer la ressemblance, il utilise une décoration intérieure qui est faite de légionnaires romains. Il y en a 36 qui sont véritablement gigantesques et qui semblent veiller ainsi sur l'intérieur de la gare. Alors, dans un ensemble comme ça, vous voyez, on est vraiment avec l'ouverture sur l'extérieur comme des termes, avec les caissons à la romaine, dans un ensemble qui évoque évidemment l'Antiquité, mais surtout qui s'en inspire. En outre, la façade de la gare, qui est dans un beau granit de Vermont, je crois, est orientée vers la colonnade du Capitole, puisqu'elle est assez proche du Capitole, et elle évoque à l'évidence l'arc de Constantin. Donc, symbole aussi, non plus de réception des gens qui arrivent par le train, mais ouverture sur la ville comme les arcs de triomphe de l'Antiquité romaine. Alors quand on voit de Grand Central, plutôt de l'Union sociale à Washington, de la gare autrement dit, en direction du Capitole, on passe obligatoirement devant la Cour suprême qui a été construite dans la perspective de la gare et du Capitole et qui est une construction qui a été réalisée entre 1929 et 1935. Elle a été réalisée avec 27 400, dit-on, blocs de marbre. Il y a à l'intérieur, on ne voit pas là sur la photo ici, des portes de bronze qui ont 6 tonnes et demie et elles se présentent délibérément comme un grand temple romain. C'est la Cour suprême, c'est la justice même qui s'incarne. Alors, je sais que nous, même ici, souvent les cours de justice ou autres ont pris cette allure, bien entendu. Mais dans le cas des États-Unis, il s'agit de l'ensemble des monuments publics, y compris les gares, qui prennent cette référence à la grandeur américaine. Construit généralement entre 1878 et 1946, les grands monuments honorifiques de Washington, c'est-à-dire ceux qui étaient dédiés à leurs grands hommes, ne pouvaient plus, du coup, ils ne pouvaient être conçus qu'en référence avec le monde antique, qui est symbole évidemment de grandeur et symbole d'éternité. Donc, pour Washington, évidemment, on va ériger un obélisque, et qui a d'ailleurs une histoire aussi complexe que le Capitole. Je ne passe pas sur les détails, il a été construit entre 1818 et 1878, c'est-à-dire qu'il a fallu 60 ans pour le construire, pour l'ériger, avec de nombreuses interruptions dues au fait qu'on manquait de crédit. Pour le président Lincoln, et là je prends dans l'ordre des monuments, pas dans l'ordre des présidents. Pour le président Lincoln, on construit, on s'inspire en 1922, on s'inspire du Panthéon. Alors là, c'est vraiment très inspiré. On est sur la façade là, du monument et du Parthénon, lapsus. On s'inspire du Parthénon. On est sur la façade du monument et on voit comme effectivement le côté que vous pouvez imaginer, que vous connaissez du Parthénon. Là, nous sommes dans une construction qui est de 1922. Et enfin, pour Jefferson, on s'inspire, là c'est donc ça que je voulais dire tout à l'heure, on s'inspire du Panthéon. Or, le monument pour Jefferson, troisième président des États-Unis, dont je parlais donc beaucoup, on ne pouvait pas faire autre chose qu'un Panthéon pour lui, puisque de toute façon, il avait tellement défendu les Beaux-Arts. Le problème, c'est qu'on y a pensé tardivement, et ce monument a été achevé en 1943. Et du coup, il a été inauguré seulement en 1946 pour l'anniversaire de la mort de Jefferson. À cette époque-là, 1946, le respect du style Beaux-Arts, la référence à l'Antiquité, a soulevé beaucoup de critiques et même de très vives polémiques. Et c'est à peu près à l'époque où ce type de construction va quitter les États-Unis. ou être moins représentés. Mais il faut aussi bien voir qu'il n'y a plus besoin de se référer aux monuments de l'Antiquité pour montrer la puissance. En 1946, la bombe atomique, la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, etc., les monuments deviennent secondaires, la puissance est là en personne. Alors, il y a un exemple, je vais revenir un tout petit peu en arrière, un exemple qui est très probant, je trouve, de cet état d'esprit jusqu'aux années 50 et de la permanence durable du style Beaux-Arts, c'est celui de l'exposition universelle de 1900 qui s'est déroulée à Paris. Alors les États-Unis ont fait construire, donc à l'exposition universelle, ils ont fait construire un pavillon comme les autres, puisque c'est le principe, mais ce pavillon était de tous les pavillons représentés à l'exposition universelle, le seul qui n'avait pas, comme les autres, les caractéristiques, il n'évoquait pas les caractéristiques, disons, économiques, physiques ou touristiques du pays qui devait être représenté. Pour représenter les États-Unis à l'exposition universelle de 1900, les Américains, je reparlerai de 1900 tout à l'heure, je reviens un peu en arrière parce que les photos m'ont échappé là. J'étais sur le monument de Lincoln, je voulais dire aussi que dans la même période des années 22, les États-Unis se sont, je disais qu'ils ont été romanisés par une sorte d'unification, se sont couverts de monuments évoquant l'Antiquité. Alors ici, c'est dans 1921 le mémorial du cimetière d'Arlington. Voilà, ça c'est l'entrée du mémorial, on voit en haut Arlington Memorial ici. Voilà, là, et la signature, la dédicace en latin, Decorum est pro patria mori. Il est, comme vous savez, c'est un honneur de mourir pour la patrie. Autre exemple de cette prolifération des monuments romains, c'est de type romain, enfin néoclassique, c'est sur le môle à Washington. Le môle et le triomphe fédéral sont littéralement bordés de monuments dont la construction est datable des années 30-35, qui évoquent ce type de style. Et la ville même en est remplie. Et là, j'ai trouvé que cette photo, c'est pas un char romain qui est devant, mais enfin, c'est l'équivalent, avec évidemment cette énorme limousine qu'on voit aux États-Unis et une rue normale, mais dans le fond, une sorte de un bâtiment qui est le musée de style grec, c'est le musée du portrait, un des musées où les Américains, je vais y revenir, ressassent leur propre histoire, qui se trouve comme ça en perspective au vu de la rue, ce mélange est tout à fait caractéristique. Et justement, dans Colin Murphy, disait, c'est pourquoi j'ai montré tous ces monuments, il disait, donc lui qui est américain, de Washington et de New York sans doute, il disait que si, par hasard, Washington était ruiné par le temps, mais par le temps, pas par des bombardements, mais par le temps, eh bien, ces vestiges dans lesquels éventuellement un touriste se promènerait ressembleraient à ceux de la Rome antique dans lesquels on se promène maintenant. Effectivement, tellement il y a de colonnes, de marbre et de monuments. Donc je reviens, puisque ce retour en arrière, enfin cet oubli étant corrigé, je reviens sur l'exposition de 1900. Donc les Américains, disais-je, ont été les seuls à ne pas présenter un pavillon qui puisse évoquer leur pays. Ils ont présenté une reproduction du Panthéon. Et alors, le Panthéon, revu évidemment, est corrigé par eux, mais enfin, on reconnaît vraiment très corrigé. Alors là, il y a une photo de l'époque qui représente ce pavillon des États-Unis en 1900, qui avec le char triomphal, le drapeau américain, l'aigle au sommet, le dôme un peu comme celui du Capitole qui évoque l'arc de triomphe, on voit tous les thèmes de l'Antiquité qui sont. Et de l'autre côté, c'est une affiche de l'époque qui montre ce monument, enfin ce pavillon, avec quand même autour, c'est une affiche là, c'est ce que peut évoquer les États-Unis, donc l'Amérique elle-même avec ses étoiles, le cow-boy, genre Buffalo Bill, le conquérant, le soldat, de la guerre de sécession, quelque chose comme ça, et puis sur l'autre côté, je crois, le noir, etc., enfin tout ce qui marque les États-Unis. Et en haut, dans le ciel comme à Panthéon, justement, les grands hommes romains, américains, Washington, Jefferson, etc., les grands hommes du XVIIIe siècle. Alors, en construisant ce type de pavillon, les Américains, à cette époque-là, nous sommes donc en 1900, marquaient clairement leur opposition au moderne style européen qui se développe beaucoup à l'époque et qu'ils considèrent officiellement comme décadent. Alors, il faut bien... Il existe aussi chez eux, bien entendu. Tiffany, par exemple, c'est de la même époque, hein, le style Tiffany. Et de même, bon, on verra au cours de ce voyage, pour ceux qui iront, la décoration intérieure de la Cour suprême est moderne style. Mais, officiellement, les États-Unis marquent leur opposition à leur opposition donc au moderne style considéré comme décadent. À la veille, on peut dire donc à la veille de la guerre de 14, qui les verrait intervenir pour la première fois en Europe, il s'agissait bien à travers un monument comme ça de dire qu'ils étaient les nouveaux romains. Alors mettons ça, ce drapeau, pour souligner ce côté néo-romain de l'aigle et du drapeau. Alors, il y a quand même une chose à dire, c'est que, avec toutes les nuances évidemment qui s'imposent, car il s'agit d'une vraie démocratie, là, dans les années où tout ceci se passe, et juste dans les années 30, les Américains ont une conception du monument qui est semblable à celle qu'on trouve en Italie fasciste, celle de Mussolini, et à celle qu'on trouve en Allemagne. Hitler voulait reconstruire un Berlin magnifique qu'il aurait appelé Germania et qui était entièrement à l'antique. Bon, la différence, c'est que les États-Unis sont une démocratie, leur monument reste raisonnable, tandis que le monument prévu par Hitler était complètement fou en dimension. Alors, de permanence dans la sculpture, permanence aussi le fond de la culture américaine. Ken Murphy, je cite souvent, fait remarquer par exemple que dans le vocabulaire courant de la présidence américaine, on parle de garde prétorienne pour dire la garde du président. On parle de légion américaine pour dire l'armée américaine, etc. Donc il y a tout un vocabulaire, évidemment d'homme cultivé, mais enfin qui signifie quelque chose. La pensée antique est évidemment toujours présente dans la culture populaire que les Américains diffusent. Les grands peuplums, un film comme Star Wars évoque continuellement le monde romain. Le feuilleton Rome, qui a eu beaucoup de succès. Les jeux vidéo, qui sont fondés sur des reconstitutions des guerres dans l'Empire romain. Le dernier étant, par exemple, Imperium Romanum. Il y a Invasion Barbare, où on voit des Romains qui combattent et on doit évidemment se mettre d'un côté ou de l'autre. Chez les intellectuels, je passe rapidement parce que là on pourrait rester, les exemples sont innombrables, mais chez les intellectuels, qui sont souvent d'excellents connaisseurs de l'Antiquité romaine, j'ai oublié de dire tout à l'heure que Jefferson, par exemple, a été aussi l'inventeur de la stratigraphie en archéologie, c'était un archéologue. Chez les intellectuels, donc Cullen, Marché Cullen que je cite là, dans une page de ce livre, dit qu'il est vraiment très content d'être dans la bibliothèque de Boston au milieu des textes grecs et latins qui l'entourent. Donc il y a cette référence est présente. Justement, l'archéologie, elle est très présente sur les sites antiques, l'archéologie américaine, et elle est comme inspirée du style des Beaux-Arts, puisque c'est une forme d'archéologie qui s'attache à reconstituer entièrement le bâtiment. Vous savez, vous avez l'archéologie de type allemand qui laisse tout par terre avec les colonnes comme à Olympie, les colonnes par terre avec un petit chiffre dessus. L'archéologie de type anglais qui reconstitue comme un Knossos en Crète, mais pas complètement, pour montrer un peu comment c'était. Et puis l'archéologie de type américain qui constitue autrichien aussi, comme à Eiffel, et qui consiste à reconstruire le bâtiment. Par exemple, la Stoa Gatal, qui se trouve sur l'Agora d'Athènes, c'est une création de l'archéologie américaine, c'est une reconstitution totale du bâtiment, avec le même marbre, avec le même matériau, et avec des documents dont on disposait. Et quand on regarde cette vue de Washington, cette vue aérienne qui n'est pas très bonne, hein, que j'ai prise sur Internet, mais qui est quand même assez caractéristique, on voit ici la Cour suprême, et la Cour suprême, dans sa partie centrale au moins, ressemble étonnamment à la Stoa Gatal sur l'Agora d'Athènes. Profitons de cette vue pour voir donc la gare, la Cour suprême, le Capitole, le Mall bordé de bâtiments, l'obélisque de Washington et le mémorial de Lincoln au fond. Alors, cette vue, donc, cette vue de Washington nous montre référence à la puissance romaine qui est également très présente dans le discours politique américain, qu'il soit d'ailleurs républicain ou démocrate. Alors, je vais citer quelques exemples très récents qui sont tous empruntés aux deux présidences de George Bush, avant et après le 11 septembre, alors que j'ai trouvé. Par exemple, une déclaration de Charles Krauthammer, qui est éditorialiste au Washington Post, elle est de 1999. L'Amérique enjambe le monde comme un colosse. Depuis que Rome détruisit Carthage, aucune autre grande puissance n'a atteint les sommets où nous sommes parvenus. Le même Krauthammer, qui était républicain, classé plutôt à droite, écrit en 2002 « Le fait est que depuis Rome, aucun pays n'a été culturellement, économiquement, techniquement et militairement aussi dominant. » Robert Kaplan, qui a été un conseiller de Bush en politique internationale, a écrit, je crois, à peu près dans la même époque, 2002 ou 2003, « La victoire des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, comme celle de Rome lors de la Deuxième Guerre punique, les a transformés en puissance universelle. » Le secrétaire d'État à la défense du président Clinton, donc un démocrate, déclare en 2002, « Depuis Rome, il n'y a jamais eu une nation qui ait autant éclipsé les autres. » Paul Kennedy, qui est un historien assez connu, écrit en 2004, « Ni la Pax Britannica, ni la France napoléonienne, ni l'Espagne de Philippe II, ni l'Empire de Charlemagne, ni même l'Empire romain ne peuvent se comparer à l'actuelle domination américaine. » Et le général Brent Scowcroft, très difficile à prononcer, dans un discours qu'il fait en janvier 2005, dit « Aujourd'hui, les États-Unis se trouvent dans la position de posséder plus de pouvoir que n'importe quel pays depuis Rome. » Donc, vous voyez, Philippe Golub, dont je me suis inspiré pour trouver ces citations, dit, pour conclure, que depuis la chute du mur et depuis les attentats du 11 septembre, Rome est redevenu le miroir lointain mais obsédant des élites américaines. Donc ça s'explique, et ce sera ma troisième et dernière partie, ça s'explique évidemment par la fondation, par, disons, les slogans, notamment ceux de la liberté, cette espèce de mémoire fictive qui a été créée par Washington et Jefferson, mais ça s'explique aussi par des similitudes évidentes qu'on peut trouver dans l'histoire et dans la société américaine. Regardons par exemple l'histoire. Les États-Unis sont passés en un siècle et demi environ de 13 petites colonies à 50 États. Et ils sont en même temps devenus une puissance si importante qu'ils règnent sur le monde, comme Rome régnait sur l'œil commun. Ils ont connu une guerre civile qui a été unificatrice et qui ressemble, effectivement, je ne vais pas me faire le parallélisme comme en introduction tout à l'heure, mais qui ressemble quand même à celle que les Romains ont dû conduire de 90 à 88 avant Jésus-Christ pour unifier l'Italie. Mais surtout, ce qui me paraît plus intéressant, c'est qu'ils ont appliqué pour s'étendre et qu'ils appliquent encore une théorie très proche de la théorie romaine du bellum iustum. C'est-à-dire que les États-Unis n'interviennent officiellement que pour défendre le droit, la liberté, la démocratie. Et comme les Romains, quand on les a appelés une fois, ils restent toujours sur place. Pour se limiter à l'extension, par exemple, en Amérique du Nord, c'est-à-dire le passage de 13 à 50 États, on peut remarquer que si une partie des États qui constituent actuellement l'ensemble des États-Unis a été achetée, c'est-à-dire achetée à Napoléon, à d'autres, une autre partie est le résultat d'élections. Et ces annexions sont consécutives à des guerres. Et les guerres ont été provoquées par des appels à l'aide ou par des incidents plus ou moins organisés et toujours habilement utilisés, on peut dire. Par exemple, en 1836, c'est un soulèvement au Texas qui est rendu célèbre par l'épisode de Fort Alamo, qui justifie une intervention contre le Mexique. Et dans le cadre de la conquête de l'Ouest, c'est un appel des citoyens de Los Angeles qui va déclencher la guerre de 1846, à la suite de laquelle les Américains prendront le Mexique, le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique, ce qui n'est pas rien. En 1898, ils encouragent aux Philippines les mouvements d'indépendance. Ils répondent à l'appel à l'aide de Aguinaldo. Et au même moment, l'explosion dans l'arabe de la Havane du cuirassé de Maine provoque une guerre courte, hein, elle a duré d'avril à décembre, quand même pas, 1898, entre l'Espagne et l'Amérique. À l'issue de cette guerre, les Américains obtiennent le contrôle des Philippines, qui se trouvent dans le Pacifique, de Porto Rico, qui se trouve dans l'Atlantique, il y a 10 000 miles entre les deux. Ils obtiennent l'île de Guam et ils obtiennent Hawaï. Or, ce qui est intéressant, c'est que Hawaï, ils étaient déjà intervenus militairement en 1893 pour instaurer la démocratie et ils avaient à cette époque déposé une reine qui s'appelait Lili Uokalani. Donc, c'est un ensemble qui ressemble beaucoup quand même aux méthodes romaines. On peut dire qu'en répondant aux appels des Grecs, des Mamertins, par exemple, au début de la Deuxième Guerre punique, ou des Gaulois, Rome n'a jamais procédé différemment pour conquérir la Grèce, la Sicile ou la Gaule. Et puis, il y a un autre point qui me frappe, c'est que les États-Unis sont, disons, à plus les États-Unis ont construit ça, je le disais tout à l'heure, environ 100 ans. Et ils ont mis moins de temps en fait que les Romains, hein, qui ont mis à peu près 2 siècles, hein, parce que la conquête romaine, en gros, prend à peu près 2 siècles. En 1898, au bout d'un siècle, par conséquent, d'existence, ils avaient révélé leurs ambitions, ils avaient démontré leur puissance, ils avaient conquis un statut de puissance mondiale avec l'Europe, avec laquelle l'Europe allait bientôt compter. Et alors, comme les Romains de la fin de la République et du début de l'Empire. Les Américains maintenant, qui se trouvent environ à 2 siècles de leur conquête et de leur extension, ne cessent, après ces 2 siècles de distance, de se retourner sur leur histoire. Ils l'écrivent abondamment, ils la contemplent, quand on se promène dans les rues de Washington, on a des références à l'histoire américaine, que ce soit de l'espace ou de la Deuxième Guerre mondiale, ils l'exaltent dans leur musée, et ils la gravent dans la pierre de leurs mémoriaux de façon extraordinaire, comme les Romains la gravaient sur leurs bas-reliefs, sur leurs arcs ou sur leurs colonnes. L'aigle, par exemple, est à cet égard caractéristique. Alors, quand on se trouve, ce qui est le cas ici, au cimetière d'Arlington, au milieu des tombes militaires que vous voyez là, entre la maison du général Lee qui se trouve au sommet et la tombe de l'enfant qui a été replacée là, qui est l'architecte dont je parlais tout à l'heure, le créateur de Washington, la vue est tout à fait saisissante, hein, jusqu'au-delà du Potomac qui est là et jusqu'à l'horizon. On a un ordonnancement extrêmement calculé de grands monuments honorifiques et de mémoriaux. Et cet ordonnancement calculé écrit dans la pierre, dans le marbre, dans le bronze, toute l'histoire triomphale de l'Amérique. La photo là, ne le montre pas très bien parce qu'elle a été prise en hiver, mais on est tout à fait saisi quand on est en haut de voir cet ensemble de monuments qui évoquent l'histoire des États-Unis. Et le spectacle, quand on médite un peu aussi, ramène irrésistiblement à Rome, on pense, on se souvient qu'au-dessous des colonnes du Forum d'Auguste, le forum que Auguste Empereur avait fait construire autour du temple de Mars Ultor, se déployait toute l'histoire de Rome, de Romulus, d'Aîné jusqu'à Romulus et de Romulus jusqu'à César. Alors là, quand on est effectivement au sommet du cimetière d'Arlington, on voit évidemment la capitale, on voit l'obélisque de Washington, on voit le tombeau de Lincoln et celui de Jefferson de l'autre côté.
Et on a, alors, les deux là sont en ligne droite, hein, comme ça, ici. Là, on est de l'autre côté pour la photo. Mais il y a un ensemble, donc, tout à fait saisissant de monuments et de mémoriaux. Alors, l'autre point qu'on peut considérer, c'est les moyens de ces extensions. L'extension américaine n'est pas suivie comme extension romaine d'une occupation. Il n'y a pas de véritable occupation, mais les Romains, les Américains comme les Romains, s'étendent et progressent par assimilation. Il y a d'abord une assimilation interne. La population américaine, on sait, s'est constituée, on ne va pas développer ça très longtemps, à partir de vagues successives d'immigration, 80, 90, etc. Les Romains, de même, après leur conquête, avaient si bien assimilé les peuples qu'ils conquéraient, puisque la méthode était différente, que les Espagnols, les Syriens et les Africains ont donné des empereurs, comme Trajan ou Septime Sévère, et qui ont véritablement étendu et embelli l'empire. Il y a une assimilation externe, je le disais, pas de véritable occupation américaine, mais diffusion et mise en place progressive d'une culture et même d'un langage. Tout à l'heure, le Claude a employé un terme américain pour parler de quelque chose qui avait rapport, je ne sais plus ce que c'était, mais en anglais, en anglo-américain. On peut dire que le modèle américain formate le monde. On voit apparaître dans des univers qui sont à l'origine très différents les uns des autres, des modes de pensée, des pratiques et des habitudes qui sont semblables. Par exemple, Mickey, McDo, Coca-Cola, Microsoft, le jazz, les feuilletons télé unifient le monde. De la même manière que les thermes, par exemple, ou certains monuments romains unifiaient, standardisaient le mode de vie des peuples qui dépendaient de Rome. Assimilation économique, évidemment. Cette assimilation économique, elle rejoint l'assimilation culturelle, parce que pour McDo, par exemple, Coca-Cola, il y a un rapport évident entre les deux. Et elle est extrêmement liée, comme au temps de Rome, aux différents éléments de commerce. Les échanges de blé, d'huile ou de verre de Rome correspondent à tout ce commerce américain. Le plus grand bâtiment, évidemment, symbolisant ça, ça c'est une autre vue du cimetière d'Arlington, symbolisant ça, c'est le Stock Exchange de New York, évidemment construction de beaux-arts de type néoclassique, dont la décoration, là, aux environs de Noël, fait triompher, mais pourtant c'était pas le moment, il y avait une grande crise, mais fait triompher, effectivement, montre la puissance, le Stock Exchange. Et on a pu dire que dans l'Empire romain, c'est un économiste américain qui dit ça, dans l'Empire romain, seuls les Romains votaient, dans le capitalisme global moderne, seuls les Américains votent. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai. On ne peut pas méconnaître non plus la présence de plus en plus évidente d'une armée, et cette armée américaine dispose dans le monde entier de bases. Et ces bases sont toutes semblables les unes aux autres, comme étaient tous semblables les uns aux autres les différents camps romains. En outre, en raison de sa dispersion, l'armée américaine connaît les mêmes problèmes que l'armée romaine. Elle est obligée d'engager des mercenaires et elle doit être renforcée par des alliés qui combattent près d'elle. Alors à Rome, ces alliés pouvaient être intégrés dans l'armée, on ne distinguait plus des Romains. De nos jours, les alliés combattent en Irak, en Afghanistan, près du commandement américain, et qui les gèrent en collaboration et qui gèrent des contingents d'apparence tout à fait hétéroclites. Et ces alliés sont l'exact équivalent des Socii, le terme veut dire alliés comme vous le savez en latin, qu'on voit par exemple sur la colonne Trajan, et qui sont différents par le costume, par l'équipement, mais qui combattent pour le compte et sous l'initiative de Rome. Il y a là une ressemblance qui est tout à fait frappante, et beaucoup de textes soulignent effectivement l'extension très forte de l'armée américaine et sa faiblesse, le coût exorbitant de son fonctionnement et son problème de recrutement. Et l'armée américaine ne peut plus fonctionner sans l'apport des Européens. Et bon, je passe les détails, mais il y a un descriptif de l'armada qui est en Irak, qui comporte toutes les nationalités avec des petits contingents de toutes sortes. Quelques traits de société pour finir, pour marquer encore cette ressemblance. Tout d'abord, aux USA, le religieux n'a pas disparu du politique. Et il jouait déjà ce rôle à Rome, bien entendu. Il s'est, comme à Rome, maintenu d'une manière assez formelle dans le discours et dans le domaine d'une pratique officielle. Je prends un exemple, c'est tout récent, au mois de janvier dernier, le discours du révérend qui précède obligatoirement le discours du nouveau président lors de la vestiture officielle. Mais dans le cas particulier de la vestiture de Barack Obama, il y a cet événement quand même peu ordinaire, c'est que, comme le président de la Cour suprême a balbutié pendant la prestation de serment, il a fallu recommencer le serment le lendemain. Alors on voit à gauche Barack Obama qui sourit, parce qu'ils sont en train de s'emmêler un peu dans le texte qui est pourtant très court, à cause d'une erreur d'ailleurs prononcée par le président de la Cour suprême qui est en face. Et on voit à droite le même président de côté de la Cour suprême et Obama qui reprête serment le lendemain à titre privé, sans public, et très rapidement dans les salons de la Maison Blanche. Or, ceci, on peut dire qu'il y a eu ce que les Romains appelaient iteratio, recommencement. Il y a eu itératio d'un acte dont la forme n'a pas été intégralement respectée. Alors dans le même esprit, si on voulait développer, là aussi on pourrait évidemment noter le nombre et les nombreuses références à Dieu dans le discours de Bush, notamment, et l'adjonction en 1860 sur le sceau des États-Unis que je montrais tout à l'heure, de la mention « in God we trust », c'est-à-dire « nous avons confiance en Dieu ». On pourrait aussi développer le thème de la référence aux ancêtres, auquel un véritable culte. On voyait les ancêtres tout à l'heure en 1900 sur le pavillon américain. Mais quand on parle de société, et pour conclure, il faut quand même parler des grandes familles. L'homo novus romain, un homo novus comme Cicéron, était reconnu, mais moins facilement que le self-made man américain. Mais aux États-Unis, les grandes familles qui ont été enrichies par leur dynamisme, par leur sens des affaires, y jouent le même rôle économique que les gens de la société romaine. Une fois qu'ils ont fait fortune, les grandes fortunes, les Morgan, les Whitney, les Guggenheim, les Astor, les Frick, les Carnegie, les Rockefeller, éventuellement les Kennedy, mais ils ont mieux utilisé leur argent que leur pouvoir, déploient leur munificence. Et ils se comportent comme dans le monde romain des évergettes. Ils mettent au service de la nation des fondations et des monuments qu'ils ont fait construire à leurs fins. Sur la bibliothèque Morgan à New York, sur le Carnegie Hall, sur le Rockefeller Center, vous voyez ici l'élévation, pourrait figurer la même mention que sur les monuments romains, sur les dédicaces romaines, in pensa sua, il l'a fait à ses frères, in pensa sua. Les USA sont en fait une démocratie comme Rome qui repose sur l'intérêt privé, sur la fortune particulière, sur le rôle public de l'individu. Et je pense que de nos jours, ce qu'il montre à l'évidence, c'est le grand débat sur la protection sociale et les difficultés que rencontre le président Obama pour faire marquer cette idée qui est contraire au principe de liberté, semble-t-il, et aussi au principe d'individualisme et de construction par soi-même. L'imaginaire américain, on peut dire, rejoint souvent l'imaginaire romain. On l'a vu dans le discours politique tout à l'heure. Un grand homme, président ou milliardaire, c'est le produit naturel de la nation. Alors la nation l'admire, elle le respecte, elle le met au pouvoir, et du coup, avec lui, comme faisaient les grands hommes romains enrichis, il partage le fruit d'une réussite à laquelle, du coup, tous peuvent participer. Il y a cet échange qui est tout à fait caractéristique. Alors en conclusion, je voudrais simplement dire que sous l'Empire romain tel qu'Auguste l'avait constitué, c'est Tacite qui nous dit ça, il y avait comme l'ombre de la République. L'Empire romain ne s'appelait pas Empire, il s'appelait Res Publica. Il n'y avait que l'ombre de la République. Il est curieux de constater que les États-Unis, par exemple, qui sont une véritable démocratie, ne suggèrent pas du tout l'idée de République. On ne dit pas la République américaine, on dit rarement, comme on dit la République française en tout cas. Et on ne dit pas le président de la France, comme on dit le président des États-Unis. Je pense que cet emploi de mots ont un sens. Or, actuellement, manifestement, une des questions qui est récurrente dans la pensée américaine, c'est le fait de savoir si les USA sont un empire ou s'ils se contentent d'exercer une hégémonie. C'est d'ailleurs amusant, on va rester encore une heure, parce que lorsqu'on a ces exercices une hégémonie, on reviendrait aux Grecs. On comparerait avec Athènes, l'hégémonie athénienne, etc. Le terme d'empire est actuellement la référence presque obligée quand on parle de l'Amérique. Je prends un exemple, il y a une histoire, j'oublie le nom d'auteur, ça m'en vient maintenant, qui s'appelle l'histoire populaire des États-Unis. Elle vient, qui est un ouvrage historique qui raconte l'histoire des États-Unis sous l'angle des Noirs, des gens qui sont en difficulté, et qui a été publié en France assez tardivement par rapport à son écriture, vers 1980. Il vient d'être édité en bande dessinée. Ce qui était l'histoire populaire des États-Unis devient en bande dessinée l'histoire populaire de l'Empire américain. Donc c'est un signe. Donc le terme d'empire est actuellement la référence, presque obligée quand on parle de l'Amérique. Et actuellement, l'emploi du terme suggère plus, autant d'orgueil que d'inquiétude. On peut dire que comme chez Tacite, parce que j'ai cité Tacite tout à l'heure, la conscience de la grandeur provoque la peur du déclin. Depuis le 11 septembre 2001, la réflexion américaine est empreinte d'une sourde et vague inquiétude qui ressemble à celle que Rome éprouvait à l'idée d'une présence barbare. En fait, la peur de la chute succède à l'enthousiasme de la toute-puissance qui a été à un instant suscité par la fin de la guerre froide. J'en prends pour finir deux exemples, les titres de deux ouvrages qui sont récemment parus et qui sont à cet égard bien caractéristiques. Un ouvrage de Niall Ferguson qui est publié en 2004 s'appelle, je traduis en Colosse, la chute, l'extension, l'ascension et la chute de l'Empire américain. Ça c'est publié en 2004, c'est de Niall Ferguson, la montée et la chute de l'Empire américain. Et puis l'ouvrage de Murphy que j'ai cité plusieurs fois tout à l'heure, s'appelle « Sommes-nous Romains ?» Mais il a un sous-titre. Et le sous-titre, c'est « La chute d'un empire et le destin de l'Amérique ». Donc, cette conscience de la force et cette peur du déclin, eh bien, c'est la situation où se trouve le Rome au début du second siècle après Jésus-Christ, quand approchaient les premiers barbares. Donc c'est l'avenir qui nous dira ce qu'il en est exactement de la comparaison. Je vous remercie. Il reste, je sais pas moi, une dizaine de minutes peut-être pour, si on veut me poser des questions sur cette comparaison qui donc n'est pas si saugrenue. Je crois de la grande entrée.
De la colonie italienne
Oh, probablement, vous savez, il y a des influences, il y a les latinos, il y a les italiens, etc. Je ne pense pas qu'il y ait eu ce... Moi, je me suis placé, sauf à la fin, évidemment, en entrant un peu plus, et encore, je suis resté assez peu dans la société américaine, plutôt du point de vue, disons, officiel. Hein, donc là, on ne peut pas dire qu'il y a une influence italienne au sens propre du mot. Oui.
Peut-être aussi mettre en valeur la mise en valeur interne du territoire américain par le biais des colonisations et des distributions de terres à la limite aux colons.
Bien sûr.
Le long des lignes de chemin de fer, on a distribué les terres comme on a pu faire.
Ah, absolument. Alors j'ai laissé ça, tous ces aspects concrets de loi, je l'ai laissé, parce qu'il y a aussi effectivement le problème des Indiens, la destruction des territoires indiens, de même que les Romains, d'abord en Italie et ailleurs, absorbent les civilisations. Mais les thèmes de la distribution des terres, les thèmes. Alors, j'y ai pensé aussi, mais là j'ai plus le temps, hein, parce qu'il y a aussi des voies de chemin de fer qui sont ouvertes, même si le chemin de fer américain ne marche pas toujours très bien, mais enfin, ça ressemble quand même aux voies romaines. Hein. Il y a une forme d'unification par la construction des modes de circulation. Et très tôt d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit non plus, mais les fédéralistes, dans la chorale des antifédéralistes et des fédéralistes, j'ai cité Brutus et Publicola, mais s'ils choisissent ces noms, c'est parce qu'ils sont persuadés que le mode d'extension, c'est le journal, c'est la presse et c'est la diffusion. C'est pourquoi ils concentrent tous leurs articles sous un seul nom, de façon à avoir un impact. Bon, ben, c'est très évidemment moderne, ça, mais autant à l'époque romaine, le slogan, la monnaie notamment, la diffusion d'une image sur la monnaie avait le même type de valeur, diffusion d'un modèle. On sait par exemple que César est le premier à s'être fait représenter en effigie sur une monnaie. Et donc à partir de ce moment-là, on voit que le thème du pouvoir personnel se développe. Bon, au fond, c'est aussi la même idée. Il y a beaucoup de points communs. Le point commun, c'est pourquoi il faut conclure sur l'Empire, c'est que c'est un empire qui devient très puissant, qui se développe avec les mêmes... mais il y a quand même eu cette graine qui a été mise au début et qui est quand même importante et qui est restée. Et surtout, ce que j'ai voulu assister, c'est qu'on peut croire, quand on est à Washington, que ce sont des constructions du 18e. Il n'y a rien du 18e. C'est vraiment une idée de continuer dans ce style. S'il n'y a plus de questions...
La place de l'enseignement de la tête et l'histoire antique, c'est-à-dire...
Alors, ça je m'étais intéressé pas pour là, mais avant, parce que alors l'enseignement du latin est toujours resté, présent dans les universités américaines. Alors quand j'étais à FAB, j'avais fait une enquête sur plusieurs universités comme ça, mais il n'est pas le concept de lettres classiques n'existe pas. Alors il y a un très fort développement de l'archéologie, notamment grâce au système de congés sabbatiques qui existent véritablement aux États-Unis, et où un étudiant qui a fait, comme Jefferson, des études d'archéologie romaine, par exemple, peut venir passer un an avec beaucoup de moyens, généralement, sur les sites européens, enfin grecs, romains, etc., pour écrire une thèse ou pour participer à des travaux de recherche. Mais du point de vue de l'enseignement de la langue, il y a un enseignement de la langue qui était, alors je ne sais pas si c'est changé depuis, j'avais regardé ça il y a une dizaine d'années, déjà le temps passe vite, dans les universités, à titre, disons, de complément à autre chose. Comme on pourrait dire maintenant complément à la médecine, ou complément à l'apprentissage de langue, ou simplement, comme le développe Jefferson, je l'ai cité d'une ligne, à titre de formation de l'esprit, d'exercice intellectuel. Alors on peut prendre, il y avait donc, j'oublie le nom de l'université qui était en question, et puis d'autres également, il n'y avait pas donc cet enseignement où on ne fait que du latin, du grec et de la langue, mais on pouvait prendre du latin dans toutes sortes de domaines et avec des objectifs et des explications diverses. Ce qui est un bon système parce que ça permet effectivement à la langue de se maintenir. En tous les cas, l'auteur que j'ai souvent cité, là, dont le livre est le dernier paru là, sur la question en 2007, Colin Murphy, est un bon latiniste et puis il connaît très très bien aussi la civilisation romaine, les textes romains, les auteurs romains. Son livre est très fondé du point de vue de l'Antiquité. Donc je pense que ça n'est pas changé, mais c'était le cas il y a une dizaine d'années.
Alors, est-ce qu'il y a des linguistes de langues anciennes qui ont une renommée internationale, qui ont traduit.
La question me prend de court.
Vous n'en voulez pas.
Il y a Stéphane Dex.
Ah oui, alors Franck Collard à connaître, qui est une nouvelle génération. Oui.
Il y a par exemple Stéphane Dex
qui
reconstituer l'oralité
du latin.
Oui. Et c'est de ce chercheur-là que les travaux de Philippe Boulay, François Carr.
Ah oui, d'accord, oui.
Par exemple, oui. Là, c'est celui qui nous a plus
de... Oui. Oui, parce que les Américains ont créé à partir des années 20 un certain nombre de revues qui sont quand même des revues importantes du point de vue de la recherche dans le monde romain, monde latin, etc. Alors, Franconnet s'appelle comment ces revues? Il y a l'American Journal, je crois, AJ. Il y a Ça me remue des choses anciennes. Je sais qu'il y a ça, puis il y en a au moins trois des revues américaines qui sont des revues importantes. On publie donc des études sur l'Antiquité romaine et grecque. Bien oui, on peut toujours effectivement débattre de cette question, c'est vrai. Alors là, on tombe dans un débat qui était le débat effectivement sur l'Empire, contre l'Empire romain aussi, de toute façon. C'est vrai que l'Empire romain n'était pas démocratique. Mais quand il y a expansion, une culture qui se développe, elle donne toujours cet aspect d'être effectivement un caractère totalitaire. Et ce qui est habile, je crois, c'est que ça n'est pas véritablement imposé par la force, quoi. On aime bien Mickey, et puis il y a des gens comme ma fille qui boivent beaucoup de Coca-Cola. Et à partir de là, il se crée une culture autre. Je ne pense pas que ce soit véritablement totalitaire, ou alors sauf si on entre évidemment dans les problèmes de CIA et de... Mais ça c'est autre chose, c'est plutôt la politique internationale. Bon, mais je crois que s'il n'y a plus de questions, on peut se séparer là. Et alors, je vous donne rendez-vous. Donc, vous pouvez encore nous envoyer, si vous le désirez, le document pour obtenir la carte César. La première rencontre, ce sera le 3 octobre, donc c'est bientôt. C'est Arthur Moziciel qui parlera de sa mise en scène dans le décor même, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans le décor même de Jules César. Et puis, ici même, nous nous retrouverons le 6 octobre pour la conférence de Gérard Hockmar sur la modernité de Julius Caesar. Thank you.